cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 4 novembre 1986.
Passage du visible Est-ce que la philosophie demeure dans le visible et le mesurable, ou le propre de la philosophie est de découvrir quelque chose qui est au-delà du visible, au niveau purement philosophique, au point de vue de la foi? Ça ne pose pas de problème. Je passe du visible à l'invisible. Saint Paul l'avait déjà dit. Toutes les choses visibles manifestent l'invisible. Vous voyez, c'est un problème critique extrêmement important pour nous. Parce que si vous êtes dans l'idéologie positiviste, et je dis bien l'idéologie, c'est pas la science. La science est respectueuse de ce qui n'est pas la science. Tandis que l'idéologie positiviste fait de la science la connaissance suprême. Ça, c'est pas la science, vous voyez. La science ne s'érige pas en sagesse. Les grands mathématiciens ne se sont jamais érigés en sagesse. Mais les mathématiciens peuvent être des positivistes. Et c'est l'idéologie positiviste qui fait que la science s'érige en sagesse et considère que tout ce qui n'est pas science est sentiment. Claude Bernard, quand il dit tout ce qui n'est pas la méthode expérimentale et scientifique, c'est du sentiment. La métaphysique, c'est du sentiment. Pouvoir parler de Dieu en philosophe, c'est du sentiment. Parler de la substance, c'est du sentiment. Alors ça, c'est la conclusion de l'idéologie positiviste. Aujourd'hui, 95% de ce qu'on appelle des scientifiques et des intellectuels sont positifs. C'est le mal le plus grand de notre monde d'aujourd'hui. Parce que vous comprenez, si je suis croyant et positiviste, le point de vue de la foi qui me fait toucher l'invisible est totalement étranger en étant hétérogène à ma connaissance intellectuelle. Or, nous savons ce processus biologique du rejet des greffes. C'est très important d'étudier ce que c'est que le rejet des greffes. Quand la greffe ne trouve pas un terrain d'une connaturalité suffisante, la greffe ne tient pas. Il fait qu'il y a un phénomène de rejet. Alors, il faudrait étudier ça au point de vue biologique de façon très très précise. C'est un problème extrêmement intéressant, médical et biologique. Et de voir quelles sont les conditions sine qua non, puisque c'est la seule chose qu'il peut faire, quelles sont les conditions sine qua non pour que la greffe puisse demeurer. Il y a un minimum de connaturalité. La greffe du rein, puisque c'est un des cas très éminents, c'est important de saisir le minimum de connaturalité. Il y aurait pour la même chose pour les transfusions de sang, vous voyez. C'est pas des greffes, mais c'est quand même du sang étranger qu'on vous donne. Alors on sait très bien qu'il y a des sangs qui ne peuvent pas être donnés, qui risquent de faire des choses terribles si vous les donnez. À un moment donné, vous avez bien, on a cru que le sang de certains singes pourrait être rejet, c'est impossible. Et ça a été dit à certaines époques, hein. Comme un vers quoi on tendait. Alors, vous comprenez que s'il n'y a aucune connaturalité entre l'intelligence et l'invisible, aucune connaturalité, le positivisme aboutit à ça. Nécessairement, il y a le rejet de la greffe. Un positiviste peut accepter, quand il était jeune, qu'il était un croyant. Mais quand il devient un adulte positiviste, il y a le rejet de la greffe. Ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça que l'Église maintient la philosophie première et la métaphysique. Faut comprendre pourquoi, vous comprenez. C'est qu'on est en présence d'un rejet de greffe divine. On considère que c'est impossible. Et que tout ce que la révélation nous dit, c'est du mythe. C'est quelque chose de totalement étranger à notre intelligence. Alors, on peut maintenir ce que dans sa jeunesse, on croyait. Dans sa jeunesse, on était métaphysicien et puis croyant. Ça, c'est l'enfant. Vous savez ce que dit Auguste Comte. C'est toujours très intéressant, parce qu'au fond, c'est toujours sous-jacent. Dans mon enfance, j'étais croyant et métaphysicien. Mais la science est venue faire un lavage de cerveau. Non pas la science, mais l'idéologie positiviste. Est venu faire ce lavage de cerveau. Et par le fait même, je considère que les croyants, ce sont des enfants bien doux. Faut pas trop les tracasser, parce qu'ils se mettraient en colère. Ils sont bons enfants. Faut les caresser. Et puis continuer en se disant, cesse. Au bout d'un certain temps, ça disparaîtra. Il y a des réserves d'indiens. Il y a des réserves de croyants. Laissons-les se gouverner. Et puis c'est tout. C'est de fait, hein. C'est de fait le regard des positivistes sur le croyant. Ne pas s'inquiéter si on est une réserve de croyants. Mais vous comprenez, il faut essayer de comprendre comment nous pouvons voir l'erreur. La seule manière, j'ai dit la seule, parce que je n'en connais pas d'autres. Si vous en connaissez d'autres, vous me le direz. La seule manière, c'est de comprendre qu'il y a un passage du visible à l'invisible. Il y a un passage du visible à l'invisible dans l'ordre de l'intelligence. Et que ce passage du visible à l'invisible se fait par l'induction. Le pont aérien se fait par l'induction. Je ne crois pas qu'on puisse avoir une autre méthode. Et que c'est la connaissance analogique qui permet seule de faire ça. La dialectique, non. L'induction baconienne, non. Donc il faut mettre toute son intelligence à comprendre ça, puisque c'est le nœud. C'est vrai pour toute la philosophie, hein. Puisque le propre de la connaissance philosophique, c'est de saisir les principes et les causes. Donc tant qu'on n'a pas saisi un principe, on ne sait pas ce que c'est que la philosophie. On reste dans le descriptif. C'est pour cela que quelquefois, vous voyez, face au positivisme scientifique, la connaissance artistique et une philosophie platonicienne est quelque chose d'excellent. Parce que si vous reconnaissez que l'artiste est quand même quelqu'un qui dit quelque chose aux hommes, comme le symbolisme que crée renvoyer à l'idéologie positiviste. Je crois. Est-ce que dit Platon dans le Parménide, c'est beaucoup plus facile comme induction. L'induction de la cause exemplaire est relativement facile. C'est l'induction que vous faites par rapport à la connaissance artistique. Découvrir que l'artiste a quand même des idées, c'est pas un imbécile. L'artiste ne vit pas uniquement son instinct. Il a une capacité de découvrir quelque chose. Et que ce qu'il découvre n'est pas mesurable par la science positiviste. Et que ce qu'il découvre échappe au positivisme. Je crois que les positivistes, s'ils pouvaient étrangler tous les artistes, ils le feraient. Parce qu'ils savent très bien que c'est de fait l'adversaire numéro un. Parce que l'artiste fait quelque chose. Il réalise quelque chose. Il réalise une œuvre. Et que l'artiste a sa manière de penser inductivement. Il passe du visible à l'invisible, l'artiste. Il le sait. Un grand artiste le sait. Pas les petits, mais le grand, il sait que ça représente quelque chose. Et une fois que vous avez la science dépouillée de l'idéologie positiviste et que vous avez la connaissance artistique, vous pouvez à ce moment-là comprendre qu'il y a peut-être possibilité de concevoir une troisième manière de penser qui est philosophique. Jamais deux sans trois. Alors, si vous avez la connaissance scientifique, mathématique, si vous avez la connaissance artistique, ajoutez la connaissance affective pendant que vous y êtes. Sauvez l'amour d'amitié. Alors, ça fait trois. Et à partir de là, vous pouvez dire, mais oui, il y a peut-être quelque chose d'encore plus profond qu'est la connaissance philosophique. C'est dans ce sens-là que la connaissance artistique, la réalisation artistique, est si importante dans notre monde d'aujourd'hui. C'est toujours la question que je posais à des étudiants de Polytechnique de Zurich, avec Gonzette, qui aimait à partir de la science d'aboutir à une espèce de logique. Je leur demandais ce qu'il fait allusion à l'art. Ils me disaient toujours non. Alors, si on ne fait pas allusion à l'art et qu'on veut passer de la science à la philosophie directement, on n'y passe jamais. On n'y passe jamais. Ils croient y passer, mais ils n'y passent pas. Ils font des méta-sciences qui en réalité n'est pas du tout la métaphysique. Qui en réalité n'est pas du tout la philosophie. Il faut la connaissance artistique. Il faut la connaissance affective. Pour découvrir ce qu'il y a de tout à fait particulier dans la connaissance philosophique. Bon, je souligne ça, vous voyez, je le souligne avec force. Parce que c'est très difficile pour nous de passer du visible à l'invisible. Du côté intellectuel, hein, je dis bien. Pas du côté du sentiment. Du côté du sentiment, nous faisons ça tous en tant que croyants. Nous faisons tout ça si nous avons un peu une âme religieuse. Nous passons du visible à l'invisible. Nous disons, Dieu est invisible. Oui, j'accepte. Oui, mais est-ce que vous avez essayé de comprendre ce que ça veut dire? L'invisible. Ou bien vous l'avez simplement affirmé en croyant. C'est-à-dire, je n'y comprends rien, c'est un mystère. Mais ça, c'est une manière de noyer le poisson, hein, si j'ose dire, et de dire je n'y comprends rien, c'est l'invisible. Alors, au bout d'un certain temps, ça vient tout simplement la démarche du somnambule. Il y a quelque chose. Non, il faut découvrir intellectuellement ce que principe et la cause ne se découvrent qu'inductivement, c'est très vrai. Mais l'induction est une démarche normale et naturelle de notre intelligence. C'est pas la logique qui me fait découvrir l'induction. L'induction est plus radicale que la logique. La preuve, c'est que le logicien ne dit pas grand-chose sur l'induction. Regardez dans les analytiques d'Aristote, hein, c'est intéressant à faire. Regardez dans les analytiques d'Aristote, les premiers et seconds analytiques. Et regardez ce qu'Aristote dit sur la connaissance inductive au point de vue logique. Presque rien. Tandis que le syllogisme, hein, le syllogisme démonstratif, une entité de tant de choses, toutes les figures du syllogisme, l'induction, passage de l'expérience à la saisie d'une cause. Comment ça se fait? Et Aristote n'insiste pas. Je crois qu'aujourd'hui, nous devrions reprendre ça. Non pas d'un point de vue logique, d'un point de vue logique, vous ne direz jamais grand-chose. C'est là où on voit la faiblesse de la logique. Puisque ce qui est le plus important, elle se tait. C'est la vitalité propre de l'intelligence qui peut seule me faire comprendre ce que c'est que l'induction. Et quand je n'ai pas des a priori positivistes, que nous avons tous, hein, si j'avais un appareil pour mesurer le positivisme en chacun d'entre vous, vous savez, l'amour réciproque des amis. Parce que je n'arrive jamais à découvrir ce qu'il y a de plus fondamental dans la vie. Il a une autonomie dans l'ordre de l'être. Et si je l'aime vraiment, je respecte son autonomie dans l'ordre de l'être. Je ne veux pas le dominer. Je ne veux pas être une cloche de plomb sur lui et l'empêcher d'être lui-même. Je ne veux pas le tyranniser. Quand vous dites ça, vous reconnaissez qu'il y a dans l'ami quelque chose qui est au-delà de l'amitié. Sa propre personne. Et sa propre personne implique son autonomie qui lui vient de sa substance. Mais alors, je peux très bien prendre ces moyens-là, ce sont des moyens qui me permettent de toucher un peu ce problème si difficile. Hein. Ça, je crois qu'il faut bien se dire ça. Problème qu'il faut revenir tout le temps en me posant la question loyale. Hein. Encore parler la substance dans notre monde d'aujourd'hui. Dois-je encore parler de l'ousia? Et j'aime presque mieux de garder le mot grec. Intraduisible. Ricoeur avait essayé de traduire. Quand il avait fait en Sorbonne un cours sur la substance, c'était courageux. Mais c'est pour bien vous montrer que ces problèmes-là ne sont pas des problèmes lointains. Ricoeur, il y a quelques années, avait fait un cours sur la substance. Et alors il avait traduit ousia et danse. Je veux bien, mais comme c'est pas très français, je veux pas. Il avait fait ça pour m'attirer l'étymologie d'un ousia de on. Vous comprenez? Le to on. Le to on, c'est l'étang. C'est le participe. Donc c'est étant, c'est l'étant. Alors si vous voulez faire ce par quoi l'étant est étant, vous direz danse. Ce serait presque mieux dire l'entité. Ce par quoi l'étant est l'étant. Mais étant, sa scolastique. Il a édité sa métaphysique. Et vous voyez que le mot substance est traité comme un sujet. Alors, ceci est vrai pour les prédicaments, mais pas pour la métaphysique. Alors, l'autre aspect, c'est de dire que substance égale forme. Alors, vous voyez, vous maintenez. Parce que c'est ça qui est très curieux. Alors ça, c'est tricot. Il tricote, hein, faut pas l'oublier. Traduction d'Aristote en disant que substance, c'est forme. En disant que la substance, c'est la quiddité. C'est très vrai qu'Aristote dit que la substance est quiddité. Mais la quiddité n'est pas substance.
La matière est belle, oui. Oh, s'il y avait eu ça.
fait cette distinction.